Chapitre 25. Ce matin, en m'éveillant, j'ai eu un élan de douloureux espoir. La fenêtre était restée ouverte et je me trouvais glacée. Je me suis pressé le front entre les mains. Je me suis dit que toute cette fange ne pouvait être, que je rêvais à plaisir l'infamie. Je sortais d'un songe horrible. Tout secoué encore par la vision, j'ai souri en pensant que ce n'était qu'un songe et que j'allais reprendre ma vie calme au soleil. Je me refusais au souvenir, je me révoltais, je niais. J'avais l'indignation de l'honneur. Non, il était impossible que je souffrisse à ce point, que la vie fût si mauvaise, si honteuse. Il était impossible qu'il existât de pareilles hontes et de pareilles douleurs. Je me suis levée doucement. Je suis allée à la fenêtre aspirer de toutes mes forces l'air du matin. J'ai vu Jacques au-dessous de moi, qui sifflait tranquillement en regardant dans la cour. Alors, il m'est venu la pensée de descendre, de l'interroger. C'était un esprit froid et juste qui calmerait ma fièvre, un honnête homme qui répondrait avec franchise à mes questions, qui me dirait s'il aimait Laurence et quels étaient ses rapports avec elle. Là serait peut-être la guérison. Je n'aurai plus cette terrible chaleur qui me dévorait la poitrine. Je me reposerai en Laurence, j'adopterai une sage ligne de conduite qui nous tirerait, elle et moi, de cet amour désespéré et sanglant où nous étions plongés. Vous le voyez, frère, près du terrible dénouement, j'en étais encore à l'espérance. Oh, mon pauvre cœur, grand enfant que chaque plaie rend plus jeune et plus chaud. En passant devant Laurence pour aller chez Jacques, j'ai regardé un instant cette fille endormie, et après tant de larmes, j'ai de nouveau espéré la rédemption. J'ai trouvé Jacques au travail. Il m'a tendu la main loyalement, avec un sourire clair et franc. Je l'ai regardé au visage, en face. Je n'ai pas vu dans ses traits paisibles la trahison que j'y cherchais. Si ce garçon me trompe, il ne sait pas qu'il fait saigner mon cœur. « Eh quoi ? » m'a-t-il dit en riant. « N'es-tu plus paresseux ? C'est bon pour moi, homme sérieux, de me lever à 6 heures. »« Écoute, Jacques, » ai-je répondu, « je suis malade, je viens me guérir. J'ai perdu conscience de ce qui m'entoure. Je m'ignore moi-même. Ce matin, au réveil, j'ai compris que le sens de la vie m'échappait. Je me suis sentie perdue dans le vertige et l'aveuglement. C'est pourquoi je suis descendue te serrer la main et te demander aide et conseil. » Je suivais sur la face de Jacques l'effet de mes paroles. Il est devenu grave et a baissé les yeux. Il n'avait pas l'attitude d'un coupable, il avait presque celle d'un juge. J'ai ajouté d'une voix vibrante, « Tu vis à mon côté, tu sais quelle est ma vie. J'ai eu ce malheur au début de rencontrer une femme qui a pesé sur moi et qui m'a écrasé. J'ai gardé longtemps cette femme par pitié et par justice. Aujourd'hui, j'aime Laurence, je la garde par rage d'amour. Je ne viens pas te demander d'employer ta sagesse à me séparer d'elle. Je veux, s'il est possible, que tu me donnes de derniers espoirs en apaisant ma fièvre, en me faisant voir que tout n'est pas honte en moi. Je te l'ai dit, je ne me connais plus moi-même. Rends-moi le service de fouiller mon être, de l'étaler saignant devant mes yeux. Si je n'ai plus rien de bon, si je suis souillée de cœur et de chair, je suis bien décidée à m'enfoncer, à me noyer dans la boue. Si, au contraire, tu parviens à me donner une espérance de rachat, je ferai de nouveaux efforts pour revenir à la lumière. » Jacques m'écoutait, hochant la tête tristement. J'ai continué après un silence. « Je ne sais si tu m'entends bien. J'aime Laurence avec emportement. J'exige qu'elle me suive dans la lumière ou dans la boue. Je mourrais de peur si elle me laissait seule au fond de la honte. Mon cœur éclatera lorsque j'apprendrai qu'elle a, dans son écrasement, trouvé d'autres baisers que les miens. Elle est à moi de toute sa misère, de toute sa laideur. Personne ne voudrait de cette pauvre créature. Cette pensée me la rend plus chère, plus précieuse. Elle est indigne de tous, moi seul l'accepte. Si je savais qu'un autre eût mon triste courage, ma rage jalouse serait d'autant plus grande qu'il faudrait plus d'amour, plus de dévouement à celui qui me volerait Laurence. Ne raisonne donc pas avec moi, Jacques. Je n'ai que faire de tes idées sur la vie, de tes volontés et de tes devoirs. Je suis trop haut ou trop bas pour te suivre dans ta voie. Toi qui as l'esprit sain, tâche seulement de m'assurer que Laurence m'aime, que j'aime Laurence, que je dois l'aimer. Je m'étais animée en parlant, je frémissais, j'entendais la folie monter. Jacques, de plus en plus grave, de plus en plus triste, me regardait, et à voix basse, « L'enfant !» disait-il. « Le pauvre enfant !» Puis, il m'a pris les mains et les a tenues dans les siennes, se recueillant, gardant le silence. Ma chair brûlait, la sienne était fraîche. Je sentais mon visage se contracter, et je me cherchais vainement dans le sien qui restait grave et fort. « Claude, m'a-t-il dit enfin, tu rêves, mon ami, tu es hors de la vie, dans le cauchemar et le mensonge. Tu as la fièvre, le délire, ton cœur et ton corps sont malades. Dans ta souffrance, tu ne vois plus les choses telles qu'elles sont. Tu donnes des dimensions monstrueuses au gravier, tu rapetisses les montagnes. Ton horizon est l'horizon du vertige, peuplé de visions terrifiantes qui ne sont qu'ombres et reflets. Je te jure que tes sens et ton âme se trompent, que tu perçois, que tu aimes ce qui n'existe pas. Va, je comprends ta maladie, même j'en connais les causes. Tu étais né pour un monde de pureté, d'honneur. Tu venais à nous sans défense, sans règles, le cœur ouvert, l'esprit libre. Tu avais l'immense orgueil de croire à la puissance de tes tendresses, à la justice, à la vérité de ta raison. Ailleurs, dans un milieu digne, tu aurais grandi en dignité. Parmi nous, tes vertus ont hâté ta chute. Tu as aimé lorsqu'il fallait haïr. Tu as été doux lorsqu'il fallait être cruel. Tu as écouté ta conscience et ton cœur lorsqu'il ne fallait écouter que ton plaisir et ton intérêt. Et voilà pourquoi tu es infâme. L'histoire est navrante. Tu dois te trouver bien puni dans tes fiertés qui te poussaient à vivre en dehors du jugement de la foule. Aujourd'hui, la plaie est saignante, avivée, irritée par tes propres mains qui la déchirent. Tu as porté dans ta chute la fougue de ton caractère. Tu as voulu être perdu tout entier dès que tu as senti le bout de ton pied entrer dans le mal. Maintenant, tu te vautres avec une sainte horreur, avec un emportement de joie amère sur le lit ignoble où tu t'es couché. Je te connais, Claude. Tu as la défaite mauvaise. Tu ne veux pas être vaincu à demi. Me permets-tu, à moi, l'homme pratique, l'homme sans cœur, d'essayer de te guérir en portant le fer rouge sur la plaie? J'ai fait un geste d'impatience, ouvrant les lèvres. « Je sais ce que tu vas me dire !» a repris Jacques avec plus de vivacité. « Et tu vas me dire que tu ne veux pas guérir, et que mon fer rouge ne fera pas même crier ta chair déjà trop meurtrie. Je sais encore ce que tu penses, car je vois ta colère et ton dédain. Tu penses que nous valons moins que toi, nous qui n'aimons, qui ne pleurons pas. Tu penses que nous avons fait ce monde, cette femme dont tu souffres, que nous sommes des lâches, des cruels, et que notre façon d'être jeune est plus honteuse que ton amour et ton abaissement. Tu viens me crier, à moi, qui vis tranquillement dans la même boue que toi, que tu te meurs de honte, que je manque d'âme si je ne meurs pas avec toi. Tu as peut-être raison, je devrais sangloter, me tordre les bras. Seulement, je ne me sens pas des besoins de pleurer. Je n'ai pas tes nerfs de femme, ton âpreté ni ta délicatesse de sensation. Je comprends que tu souffres par moi, par les autres, par tous ceux qui aiment sans amour. Et j'ai pitié de toi, pauvre grand enfant, qui me paraît tant souffrir d'une souffrance que j'ignore. Si je ne puis monter à toi, m'exposer à tes douleurs par trop d'âme et trop de justice, je veux au moins, pour te guérir, te donner notre lâcheté et notre cruauté, t'arracher ton cœur, te laisser la poitrine vide. Alors, tu marcheras droit dans le chemin de jeunesse. » Il avait élevé la voix. Il me serrait les mains fortement, presque avec colère. Ce devait être là toute la passion de Jacques, une passion blanche, faite de raisonnement et de devoir. Moi, pâle devant lui, la tête à demi détournée, je souriais de mépris et d'angoisse. « Ta Laurence » a-t-il continué avec énergie. « Ta Laurence est une catin. Elle est laide, elle est vieille, elle est infâme. Tu vas monter chez toi et me la jeter à la rue. Elle est mûre pour le ruisseau. Voici plus d'un an que cette fille te ronge et te souille. Il est temps que tu ôtes la vermine de ton corps, que tu te blanchisses, que tu te laves les mains. Je comprends les surprises de la chair. J'aimerais Laurence une nuit si elle veut, et si je viens à avoir quelque passion mauvaise. Le lendemain, je rendrai au trottoir ce qui appartient au trottoir, et je brûlerai du sucre dans ma chambre. Monte, jette-la par la fenêtre, si elle ne sort pas assez vite par la porte. Sois cruelle, sois lâche, sois injuste, commets un crime. Mais, pour l'amour de Dieu, ne garde pas une Laurence chez toi. Ces femmes-là sont un pavé sur lequel on marche. Elles appartiennent aux passants, comme les dalles de la rue. Tu prives la foule en gardant pour toi seule une propriété publique. La justice ici est de ne voler personne. Ne te sers pas en avare du bien de tous. Vois-tu, je cherche quelque insulte pour t'exaspérer. Je voudrais te rendre digne de ton âge en t'apprenant à injurier la femme, à t'en servir pratiquement. Depuis un an, qu'as-tu fait si ce n'est pleurer? Te voilà mort au travail, tu vis déclassé, en dehors de tout avenir. Laurence est le mauvais ange qui a tué ton intelligence et tes espoirs. Il faut tuer Laurence. Attends, j'ai une dernière infamie à te jeter à la face. Tu n'as pas le droit de vivre pauvre en vivant avec cette femme. Si tu travaillais, si tu luttais seul, tu pourrais mourir de faim et tu en mourrais plus grand. Les quelques amis que tu avais se sont éloignés. Tu les as vus s'écarter avec froideur, un à un. Tu ne sais pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ne s'expliquent pas tes moyens d'existence, qu'ils ne comprennent pas que tu gardes une maîtresse dans ta misère. Les riches, lorsqu'ils font l'aumône, disent cela des pauvres qui ont un chien. Ils disent, ces amis, qu'il y a calcul et que tu manges le pain que Laurence gagne ailleurs. Je me suis dressée d'un mouvement brusque, les bras étroitement serrés contre la poitrine. L'insulte m'avait atteint en plein visage. J'en sentais le froid qui me couvrait la face. J'étais raidie et glacée. Je ne savais plus si je souffrais. Je ne croyais pas en être arrivée déjà à ce degré d'abaissement dans les opinions de la foule. J'avais désiré une honte volontaire, mais je n'avais pas voulu l'injure. J'ai reculé, pas à pas, vers la porte, regardant Jacques qui s'était levé, lui aussi, et qui me contemplait avec une violence superbe. Quand j'ai été sur le seuil, « Écoutez, m'a-t-il dit, vous vous en allez sans me serrer la main. Je vois que vous ne me pardonnerez pas la blessure que je viens de vous faire. Pendant que je suis lâche et cruelle, j'ai une dernière infamie à vous proposer. Je ne vous aurais pas torturé, je n'aurais pas soulevé votre dégoût sans vous guérir. Envoyez-moi Laurence. Je me sens le courage de la garder une nuit. Demain, vos tendresses seront mortes. Vous chasserez cette femme qui ne sera plus à vous. S'il vous faut d'autres amours pour rater la consolation, montez vous agenouiller devant le lit de Marie et aimez-la. Elle ne vous sera pas longtemps à charge. » Il parlait avec une colère froide, une conviction haute et dédaigneuse. Il semblait fouler aux pieds tout amour, marcher sur ces femmes dont il se servait par caprice et par mode. Il regardait droit devant lui, comme voyant son âge mûr le féliciter des hontes raisonnées de sa jeunesse. Ainsi, Jacques, l'homme pratique, se rencontrait avec Paquerette. Tous deux me conseillaient un échange ignoble, un remède plus écœurant, plus amer que le mal. J'ai fermé la porte violemment et je suis remontée, presque calme, stupide de douleur. Il y a dans le désespoir un instant où l'intelligence échappe, où les événements qui se succèdent se mêlent et n'ont plus aucun sens. Lorsque je me suis retrouvée devant Laurence endormie, j'ai oublié que je venais de voir Jacques. Je n'ai plus eu conscience de ses conseils ni de ses insultes. Le cœur et la raison de cet homme me semblaient des abîmes obscurs dans lesquels je ne pouvais descendre. J'étais seule, face à face avec mon amour, comme hier, comme toujours. Je n'avais plus qu'une pensée, celle d'éveiller Laurence, de l'étreindre, de la forcer à la vie et au baiser. Je l'ai éveillée, je l'ai prise avec emportement dans mes bras, je l'ai serrée à la faire crier. J'avais une rage muette, une volonté implacable. J'étais las d'être en dehors de Laurence, d'ignorer ce qui se passait en elle. Je trouvais plus simple d'être elle-même. Je me disais que là, je n'aurais plus de soupçons, que je la forcerais bien à m'aimer en échauffant son cœur sous mes caresses. Laurence ne m'avait pas parlé depuis 2 jours. La douleur a desserré ses lèvres. Elle s'est débattue et m'a crié d'une voix mauvaise. « Laisse-moi, Claude, tu me fais mal. La singulière idée d'éveiller les gens en les étouffant. » Je me suis agenouillée sur le carreau, au bord de la couche, et j'ai tendu les mains vers mon bourreau. « Laurence, » ai-je murmuré d'une voix douce, « parle-moi, aime-moi. Pourquoi es-tu si cruelle? Que t'ai-je donc fait pour que tes lèvres et ton cœur gardent le silence? Sois loyale. Fais-moi souffrir toutes mes souffrances en 1 heure ou jette-toi dans mes bras et vivons heureux. Dis-moi tout. Ouvre large tes pensées et tes affections. Si tu ne m'aimes pas, frappe un grand coup, brise-moi et va-t'en. Si tu m'aimes, reste, reste, mais reste sur mon cœur, tout près, et parle-moi, parle-moi toujours. Car j'ai peur lorsque je te vois muette et morne pendant des journées entières, me regardant avec tes yeux de morte. Je sens la démence me venir dans ce désert où tu me traînes. J'ai le vertige en me penchant sur toi, si profonde d'obscurité, de silencieuse horreur. Non, je ne puis vivre 1 jour de plus dans l'ignorance de ton amour ou de ton indifférence. Je veux que tu t'expliques sur l'heure, que tu te fasses enfin connaître. Mon esprit est là de chercher. Il est plein des tristes solutions qu'il a voulu se donner de ton être. Si tu ne veux pas que mon cœur et ma tête éclatent, nomme-toi, dis qui tu es, assure-moi que tu n'es pas morte, que tu as encore assez de sang pour m'aimer ou pour me haïr. J'en suis à la folie. Écoute, nous partirons demain pour la Provence. Te souviens-tu des grands arbres de Fontenay? Là-bas, sous le large soleil, les arbres sont plus fiers, plus puissants. Nous vivrons une vie d'amour sur cette terre ardente qui te rendra ta jeunesse et te donnera une beauté sombre, passionnée. Tu verras. Je sais, dans un trou semé d'herbes fines, une petite maison noire, toute verte d'un côté de lierre et de chèvrefeuille. Il y a une haie, haute comme un enfant, qui cache les 10 lieues de la vallée. Et on n'aperçoit que les rideaux bleus du ciel et le tapis vert du sentier. C'est dans ce trou, dans ce nid, que nous nous aimerons. Il sera notre univers. Nous y oublierons la vie que nous avons menée au fond de cette chambre. Le passé ne sera plus. Le présent seul, avec son grand soleil, sa nature féconde, ses amours fortes et douces, existera pour nos cœurs. Oh, Laurence, par pitié, parle-moi. Aime-moi, dis-moi que tu veux bien me suivre. » Elle était restée sur son séant, essuyant avec tranquillité ses yeux gros de sommeil, démêlant ses cheveux et tirant ses membres. Elle bâillait. Mes paroles semblaient ne produire sur elle que l'effet d'une musique désagréable. J'avais prononcé les derniers mots avec des larmes, avec tant de déchirement qu'elle a cessé de bâiller, et m'a regardée d'un air contrarié et amical à la fois. Elle a ramené sa chemise sur ses pieds nus, puis elle a joint les mains. « Mon pauvre Claude, » m'a-t-elle dit, « sûrement tu es souffrant, tu fais l'enfant, tu me demandes des choses qui ne sont vraiment pas drôles. Si tu savais combien tu me fatigues avec tes embrassements continuels, avec tes questions bizarres. Tu m'as étranglée l'autre jour. Aujourd'hui tu pleures, tu t'agenouilles devant moi, comme si j'étais une sainte vierge. Je ne comprends rien à tout cela. Je n'ai jamais connu d'homme bâti de cette façon. Tu es toujours là à m'étouffer et à me demander si je t'aime. Je t'aime, puisque je reste avec toi sans que tu me donnes un sou. Tu ferais mieux, au lieu de te rendre malade ici, de chercher quelque travail qui nous permet de manger un peu plus souvent. Voilà mon avis. Elle s'est étendue paresseusement et m'a tourné le dos pour ne pas avoir dans les yeux la lumière de la fenêtre qui l'empêchait de se rendormir. Je suis demeurée à genoux, le front contre le matelas, rompue par le nouvel élan qui venait de m'emporter. Il me semblait que je m'étais élevée très haut et qu'une main dure et froide m'ayant poussée, j'étais tombée à plat ventre des profondeurs du ciel. Alors, je me suis souvenue de Jacques. Mais le souvenir me paraissait lointain et vague. J'aurais juré qu'il y avait des années que j'avais entendu les paroles terribles de l'homme pratique. Mon cœur s'est avoué tout bas que cet homme avait peut-être raison dans son égoïsme. J'ai eu la rapide tentation de prendre Laurence à bras-le-corps et d'aller la porter au prochain carrefour. Je ne pouvais rester ainsi entre Jacques et Laurence, entre mon amour et mes souffrances. Il me fallait un apaisement, une résolution. J'avais le besoin de me plaindre et d'interroger, d'entendre une voix me répondre et me donner une certitude. Je suis montée chez Pâquerette. Je n'étais jamais entrée dans la chambre de cette femme. Cette chambre se trouve au 7e étage, sous les toits. Elle est petite, mansardée, et reçoit le jour par une fenêtre oblique dont le carreau se lève à l'aide d'une tige en fer. Le papier des murs pend en lambeaux noirâtres. Les meubles, une commode, une table et un lit de sangle, s'appuient les uns contre les autres pour ne pas tomber. Dans un coin, il y a une étagère en palissandre, avec des filets d'or le long des baguettes, chargés de verroteries et de porcelaine. Le bouge est sale, encombré de vases de cuisine ébréchés, pleins d'eau grasse. Il exhale une forte odeur de graillon et de musc, mêlée à cette senteur âcre et nauséabonde des vieilles gens. Pâquerette était gravement enfoncée dans un fauteuil rouge, dont l'étoffe, usée par endroits, montrait la laine du dossier et des bras. Elle lisait un petit livre jaune, maculé, qu'elle a fermé et posé sur la commode. Je lui ai pris les mains. J'ai pleuré. Je me suis assis sur un tabouret, à ses pieds. Dans mon désespoir, j'étais tentée de l'appeler ma mère. J'ai compté ma matinée, les paroles de Jacques, celles de Laurence. J'ai vidé mon cœur, avoué mon amour et ma jalousie, demandé un conseil. Les mains jointes, sanglotant, suppliant, je me suis adressée à Pâquerette comme à une bonne âme qui connaissait la vie, qui pouvait me sauver de cette fange où je m'étais aventurée en aveugle. Elle a souri en m'écoutant, me tapant sur les joues de ses doigts secs et jaunes. « Allons, allons » m'a-t-elle dit lorsque l'émotion a étranglé la voix dans ma gorge. « Allons, voilà bien des larmes. Je savais qu'un jour ou l'autre vous monteriez ici pour me demander aide et secours. Je vous attendais. Vous preniez tout cela bien trop au sérieux. Vous deviez en arriver à ces sanglots. Voulez-vous que je vous parle franchement ?»« Oui, oui !» me suis-je écrié, franchement, brutalement. Eh bien, vous faites peur à Laurence. Autrefois, je vous aurais mise à la porte dès le second baiser. Vous embrassez trop fort, mon fils. Laurence reste avec vous parce qu'elle ne peut aller ailleurs. Si vous voulez vous en débarrasser, donnez-lui une robe. Pâquerette s'est arrêtée avec complaisance sur cette phrase. Elle a toussé, puis a écarté de mon front une boucle de cheveux qui venait de glisser. « Vous me demandez un conseil, mon fils, » a-t-elle ajouté. « Je vous donnerai par amitié le conseil que Jacques vous a donné par intérêt. Il vous délivrera volontiers de Laurence. » Elle a ri méchamment et ma douleur a été plus vive. « Écoutez, » lui ai-je dit avec violence, « Je suis venue ici pour être calmée. Ne bouleversez pas ma raison. Il est impossible que Jacques aime Laurence après les paroles qu'il m'a dites ce matin. Hé, mon fils, m'a répondu la vieille, vous êtes bien naïf, bien jeune. Je ne sais ce que vous entendez par amour, et j'ignore si Jacques aime Laurence. Ce que je n'ignore pas, c'est qu'ils s'embrassent tous deux dans les petits coins. Jadis, que de baisers j'ai donnés sans savoir pourquoi. Que de baisers on m'a rendus qui venaient je ne sais d'où. Vous êtes un étrange garçon qui ne fait rien comme les autres. Vous ne devriez pas vous mêler d'avoir une maîtresse. Si vous êtes bien sage, voilà ce que vous allez faire. Vous vous prêterez à la circonstance, et tout doucement, Laurence s'en ira. Elle n'est plus jeune, elle pourrait vous rester sur les bras. Songez-y. Plus tard, vous vous repentiriez. Il vaut mieux la laisser partir, puisqu'elle veut bien partir d'elle-même. J'écoutais avec stupeur. « Mais j'aime Laurence » ai-je crié. « Vous aimez Laurence, mon fils. Eh bien, vous ne l'aimerez plus, voilà tout. On se prend et on se quitte, c'est l'histoire. Mais bon Dieu, d'où venez-vous donc? Quelle idée avez-vous eue, ainsi bâtie, de vous mettre à aimer quelqu'un? Dans mon temps, on aimait autrement. Il était plus facile alors de se tourner le dos que de s'embrasser. » Vous sentez vous-même qu'il vous est impossible désormais de vivre avec Laurence. Séparez-vous gentiment. Je ne vous parle pas de prendre mari avec vous. Cette fillette vous déplaît, et je crois que vous ferez mieux de coucher seule. » Je n'entendais plus la voix de Pâquerette. La pensée que Jacques avait pu me tromper le matin ne m'était pas venue. Maintenant, je m'y enfonçais, ne parvenant pas à y croire, mais trouvant une sorte de consolation à me dire qu'il m'avait menti peut-être. C'était une nouvelle ombre dans mon intelligence, un nouveau tourment ajouté à mes tourments. J'allais pouvoir devenir fou. Pâquerette continuait en asillant. « Je voudrais vous former, Claude. Vous communiquez mon expérience. Vous ne savez pas aimer. Il faut être bon avec les femmes, ne pas les battre, leur donner des douceurs. Surtout pas de jalousie. Si on vous trompe, laissez-vous tromper. On vous en aimera davantage les jours suivants. Quand je songe à mes amants, je me rappelle un petit blond qui se vantait d'avoir eu pour maîtresse toutes les filles des bals publics. Voyez-vous cette étagère, le dernier souvenir qui me reste. Elle me vient de lui. Un soir, il s'est approché de moi et m'a dit en riant, « Tu es la seule que je n'ai pas aimée. Veux-tu m'embrasser après toutes les autres ?» Je l'ai embrassée sur les deux joues et nous avons soupé ensemble. Voilà comment il faut aimer. Je suis sortie de mon accablement. J'ai regardé le lieu où je me trouvais. Alors seulement, j'ai vu la saleté du bouge. J'ai senti l'odeur de musc et de graillon. Toute ma fièvre était tombée. J'ai compris la honte de ma présence au pied de la vieille impure. Les paroles qu'elle m'avait dites, et que ma mémoire gardait, se sont précisées, effrayantes, dans ma pensée qui les tournait auparavant sans les comprendre. Je n'ai pas eu la force de descendre jusqu'à ma chambre. Je me suis assis sur une marche, et j'ai pleuré tout le sang de mon cœur. Chapitre 26. Je suis lâche, je souffre et je n'ose cautériser la plaie. Je sens que Pâquerette et Jacques ont raison, que je ne puis vivre dans cet effroyable tourment qui me secoue. Je n'ai plus, si je ne veux en mourir, qu'à arracher l'amour de ma poitrine. Mais je suis comme les moribonds qu'effraient l'inconnu et le néant. Je sais quelles sont les angoisses de mon cœur plein de Laurence. Je ne sais quelles seraient ses douleurs s'il devenait vide de cette femme. Je préfère les sanglots de mon agonie à la mort de mon amour. Je recule devant les mystérieuses horreurs d'une âme veuve d'affection. C'est avec désespoir que je sens Laurence m'échapper. Je la presse entre mes bras comme un calice qui me met en sang, qui me donne une volupté amère. Elle me déchire et je l'aime. Je l'aime pour toutes les pointes qu'elle fait entrer dans ma chair. j'éprouve l'extase douloureuse de ces moines qui mouraient sous les verges dont ils se frappaient eux-mêmes. J'aime et je sanglote. Je ne veux pas refuser les sanglots si je dois refuser l'amour. Et cependant, je comprends que ce cauchemar âpre et violent doit finir. La crise approche. Je ne sais lequel de nous va mourir. J'ai comme une angoisse qui me tient éveillée, qui m'avertit d'un malheur prochain. Le ciel aura pitié. Il guérira mon esprit et me laissera mon cœur. Il me choisira pour la mort plutôt que de choisir mes tendresses. Ce matin, j'ai rencontré un jeune homme et une jeune femme qui marchaient dans le soleil clair. Tous deux, étroitement pressés, s'avançaient à petits pas, oublieux de la foule. La jeune femme s'appuyait à l'épaule du jeune homme, elle le contemplait, émue et souriante, et lui, dans un regard, il lui rendait son émotion, son sourire. Le couple rayonnait. Il y a donc des amours jeunes, tandis que je vis misérable, à l'ombre, déchiré par une passion horrible. Il y a donc, dans les rayons de mai, des amants qui vivent de douceur. Je ne savais pas qu'on pouvait s'aimer ainsi. Je croyais que les baisers devaient être âcres et poignants. Maintenant, je me rappelle. Les amants s'en vont deux à deux dans les clairs de lune, dans les aurores. Ils sont vêtus d'étoffes légères. Ils s'embrassent à chaque pas d'une façon tendre, recueillie. Ils vivent au milieu des herbes, au milieu des foules, et ils sont toujours seuls. Le ciel sourit, la terre se fait discrète, l'univers est complice. Les amants échangent leurs cœurs, ils vivent l'un de la vie de l'autre. Moi, je me suis enfermé ici. Je ne puis tout avoir. J'ai les larmes, le désespoir d'aimer seul. J'ai le silence, les yeux morts de Laurence. Qu'ai-je besoin de printemps et de jeunes amours? J'ai ma douleur, si les autres ont leur joie. Oh, mon Dieu, pitié! Ne me prenez pas ma souffrance. Empêchez cette femme de me guérir en me tuant mon amour. Qu'elle reste là, à mon côté. Qu'elle y reste, froide et indifférente, pour prolonger mon tourment. Je ne sais plus pourquoi je l'aime. Je l'aime en dehors du juste et du vrai. Je l'aime pour l'aimer. Et je ne veux pas qu'on me dérange dans la folie de ma passion. Tout mon être s'écrase à l'idée qu'elle peut me quitter. J'ai peur du néant. En la perdant, je perdrai ma famille, toutes mes affections, tout ce qui me rattache encore à la terre. Mon Dieu, ne lui permettez pas de me laisser orphelin. Chapitre 27. Je me plais dans la chambre de Marie. Dès le matin, je vais m'asseoir au bord du lit de la mourante. Je vis là le plus possible, me retirant avec regret. Partout ailleurs, j'appartiens à Laurence. J'ai la fièvre. J'ai hâte de me trouver dans ce lieu d'apaisement. J'y entre avec la sensation de confiance et de bien-être d'un malade qui va respirer un air plus doux dont il attend la guérison. J'aime la mort. La chambre est tiède, moite. La lumière y est grise et attendrie, faite d'ombre et de clarté blanche. Tout y flotte dans une langueur dernière, dans une demi-transparence molle et recueillie. On ne sait combien est doux à un cœur saignant le silence qui règne dans la pièce où se meurt une jeune fille. Ce silence est un silence étrange, particulier, d'une douceur exquise, plein de larmes contenues. Les bruits, un choc de verre, le craquement d'un meuble, s'adoucissent, se traînent comme des plaintes étouffées. Les cris du dehors entrent en murmures de pitié, de miséricordieux encouragements. Tout se tait, le son et la lumière. Tout est pénétré de douleur et d'espérance. Et dans l'ombre, dans le silence, on entend un vague désespoir qui vient on ne sait d'où et qu'accompagne le souffle déchiré de la moribonde. Je regarde Marie. Je me sens peu à peu pénétrée par cette invisible haleine de pitié consolante qui emplit la chambre. Mes yeux se reposent de leurs larmes dans cette clarté pâle. Mes oreilles, dans ce silence frissonnant, oublient pour une heure le bruit de mes sanglots. Toute la douceur, toutes les attentions délicates, toutes les paroles basses et caressantes que l'on a pour mari, me sont comme adressées. On retient le bruit des voix et des pas. On interroge, on répond avec affection. On évite les sensations aiguës et douloureuses. Et moi, je crois par instant que toutes ces bonnes précautions sont prises pour ne pas faire éclater mon pauvre être plein de souffrance. Je m'imagine que je me meurs, que l'on me soigne. Je prends ma part des soins, des consolations. Je vole à Marie une moitié de son agonie et des pitiés qu'elle fait naître. Je viens là, aux côtés d'une enfant mourante, profiter des regrets et des tendresses que les hommes accordent aux heures dernières d'une âme. Je guéris mon amour dans la mort. Je le sens. C'est le besoin d'être plein, d'être caressé, qui me pousse dans cette chambre. J'y trouve l'air qu'il me faut, la pitié qui m'est nécessaire. La vie est trop aiguë pour ma chair endolorie et mon cœur blessé. Le grand jour m'irrite, je ne suis à l'aise que dans l'effacement réparateur de la tombe. Et si, un jour, je sors de mes désespoirs, je devrais remercier le ciel de m'avoir permis de vivre assis au pied d'un lit de mort, de m'avoir fait ainsi partager les apaisements d'une agonie. J'aurai vécu parce qu'une enfant sera morte à mon côté. Je regarde Marie. La fièvre épure sa chair de jour en jour. Elle rajeunit, elle devient petite fille dans l'épuisement de son sang. Son visage, profondément creusé, exprime un désir ardent, celui du néant, du repos. Les yeux ont grandi, les lèvres pâles restent entr'ouvertes, comme pour faciliter le passage au souffle suprême. Elle attend, résignée, presque souriante, ignorante de la mort, de même qu'elle a été ignorante de la vie. Parfois, nous nous contemplons l'un l'autre, en face, pendant de longues heures. Je ne sais quelle pensée arrête la toux sur ses lèvres. Elle paraît emplie d'une idée unique qui suffit à la tenir éveillée, plus vivante et plus calme. La face s'apaise, il y a des lueurs roses sur les joues. Les membres sous le drap ont moins de raideur. Marie, devant mon regard, se détend, sort de l'agonie. Moi, je m'absorbe en elle, je prends ses souffrances. Peu à peu, il me semble que je passe par ses lèvres entr'ouvertes et que je fais partie de cette créature malade. J'éprouve une sensation douce et amère à languir avec elle, à défaillir lentement. Je sens l'inexorable mal prendre possession de chacun de mes membres, me secouer avec une violence croissante à mesure que mes regards pénètrent plus avant dans ceux de Marie. Je me dis que je vais mourir à la même minute qu'elle, et j'ai une grande joie. Oh, quel étrange attrait et quel apaisement! La mort est puissante, elle a des tentations âpres, d'irrésistibles appels. Il ne faut pas se pencher sur les yeux d'un mourant, car ils sont pleins de lumière et si profonds que leurs abîmes donnent le vertige. On voudrait voir ce que voient ces yeux agrandis. On est pris de l'effrayante curiosité de l'inconnu. Toutes les fois que Marie me regarde, je désire mourir, m'en aller avec elle pour savoir ce qu'elle saura. Je crois deviner qu'elle me sollicite, qu'elle me prie de ne pas l'abandonner, qu'elle fait le rêve de nous en aller de compagnie, risquant le même néant ou la même splendeur. J'oublie alors, j'oublie Laurence. Moi qui vois Laurence dans toutes choses, dans la veille et dans le rêve, dans les objets qui m'entourent, dans ce que je mange et dans ce que je bois, je ne vois pas Laurence au fond des yeux de Marie. Je n'y vois que cette lueur bleue, plus pâle aujourd'hui, que j'ai aperçue une nuit, tandis que mes lèvres touchaient les lèvres de l'enfant. Cette lueur bleue est vide de mon amour, elle est vide de douleur pour moi, elle est la seule chose que je puisse regarder sans pleurer. C'est pourquoi j'aime cette chambre, cette moribonde, ces larges regards qui ont plus de pureté, plus de douceur que le ciel. Car le ciel, lui, me parle de Laurence lorsque je lève la tête. Je viens me perdre dans cet oubli, dans cette lumière claire et sereine, toute pure, qui peut-être guérira mon cœur. Lorsque la nuit tombe et que je ne vois plus la lueur bleue des yeux de Marie, j'ouvre la fenêtre, je regarde la muraille noire. Le carré de lumière jaune est là, vide ou peuplé, morne ou empli de mouvements silencieux. J'ai une sensation âcre, après plusieurs heures d'oubli, à me retrouver face à face avec la réalité, face à face avec ma jalousie et mes angoisses. Chaque soir, je recommence ce labeur pénible et gigantesque de donner un sens à ces taches sombres qui grandissent et roulent bizarrement sur le mur. Je me suis fait une récréation douloureuse de cette recherche. Je m'y applique, avec une patience anxieuse, un entêtement plein de fièvre, qui tous les jours me ramènent à la fenêtre, bien que je me promette, tous les jours, de ne plus y risquer ma raison.